Voilà, bonjour encore à chacune et à chacun. Vous allez bien? Vous n'êtes pas fatigué? Nous vivons des moments riches et je voudrais remercier à l'équipe de Louange et Alissa qui nous ont déjà beaucoup apporté à travers ce beau ministère de la louange, de l'adoration. Et il y avait ce chant dont les paroles m'ont vraiment touché à nouveau. Ce chant qui nous dit... dont les paroles disaient, voilà, même si le mur n'est pas encore complètement écroulé, je sais que tu peux plus encore. Je m'appuie sur tes promesses. Nous avons entendu dans le temps de chant aussi, nous avons chanté ce chant que j'aime beaucoup. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu, esclave de la peur. C'est un peu l'histoire du peuple d'Israël quand il sort d'Égypte. Il est libéré de la maison de servitude, mais la servitude n'a pas encore quitté son cœur. Déjà libre, pas encore tout à fait dans le pays promis, mais encore enchaîné dans les pensées et dans les cœurs. Et pendant que je priais et que je préparais le message de ce dimanche, lundi, je reçois une notification de l'Est républicain. Alors, juste pour que vous compreniez comment ça me vient, c'est que j'ai été pasteur à Grenoble pendant une dizaine d'années. Et j'ai dû parfois aller consulter leur site et les cookies. Pas ce que j'aime avec le café, mais ce qui me trace. Ont dû s'intéresser à moi et je vois, comme ils savent très bien le faire les communicants, je vois un titre, paf, le temple du sexe transformé en temple protestant. Quand vous recevez ça, vous avez peur, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai consulté pour que ce cookies me propose ça? Vous savez, c'est comme Netflix, il vous dit suggérer à 99% parce que vous avez vu un ensemble de films. Il se dit, ah, il aime ça. Alors, il vous suggère ça. Et en plus, comme ils font des stats, ils disent à 99%. Ça veut dire, je suis très sûr que ça va te plaire. Quand même avec un titre aussi accrocheur, j'avoue que j'ai cliqué. C'est quoi cette histoire? Le temple du sexe devient le temple protestant. Je dis, mais je vais aller voir. À Besançon, un sex shop historique nommé au doux plaisir, parce qu'on est dans le doux, nommé au doux plaisir, ils sont forts, hein, franchement ils sont forts, a été racheté par des chrétiens parce qu'ils ont chuté. A été racheté, le bâtiment a été racheté par des chrétiens. Et ils ont rénové le bâtiment pour le plus grand plaisir de Dieu. On est passé du au doux plaisir des humains au grand plaisir de Dieu. Le bâtiment est le même, mais le cœur du métier dans ce bâtiment n'est plus le même. Dieu a changé la destination de ce bâtiment. Et notre Dieu le fait encore tout au long de l'histoire de la Bible, il veut le faire aujourd'hui. J'en ai la conviction. Dieu veut changer la destination. Peut-être que cette année est déjà mal embarquée pour toi. Ou alors peut-être que, comme Alissa nous a partagé, dans le club de janvier, on a des bonnes résolutions, mais il y a des choses. Tu es appelé à la liberté, mais il y a encore des chaînes. Il y a encore des entraves. Et si ce matin, Dieu t'appelait à passer de au doux plaisir, à être son plaisir à lui, à faire de lui tes délices, notre Dieu change des destinées. Quand il le fait pour des bâtiments, on peut dire, oh, c'est que, en effet, un bâtiment, dans notre théologie protestante et évangélique, nos bâtiments ne sont pas consacrés en tant que tels. Ce n'est pas des bâtiments liturgiques. On peut en faire un lieu de repas fraternel, on le fera tout à l'heure. Mais quand il change des hommes, des femmes, quand la destination de leur vie change, c'est extraordinaire. Et ce matin, je veux poursuivre avec vous la lecture de Josué, chapitre 2. On va voir si mon petit... Voilà. Alors, c'est un récit qui est difficile à couper. On va le lire en deux temps. Mais il est vraiment très difficile à couper. On est obligé de lire tout le chapitre 2. Mais c'est un texte narratif, c'est une histoire. Et vous comprendrez qu'il y a un lien avec l'anecdote par laquelle j'ai commencé. Josué, fils de Noun, fit partir secrètement de Shittim deux espions en leur disant « Allez explorer le pays, en particulier Jéricho ». Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab. Ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. » En effet, c'est pour explorer le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha, puis elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. » Et au moment où l'on allait fermer la porte, à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés. « Dépêchez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. » Elle avait fait monter les espions sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle y avait arrangées. Ces hommes les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après leur départ. Arrêtons-nous un peu ici, on reprendra la suite de notre texte après. Le contexte est simple. Nous sommes au tout début du livre de Josué, dont le thème principal va être l'entrée dans le pays promis. Et nous sommes ici encore dans la plaine de Shittim, où le peuple est installé depuis un certain temps. Moïse est mort et Josué, le successeur, désigné, préparé à la charge de faire traverser le Jourdain au peuple. Mais Josué a besoin pour cela de force, de courage, c'est-à-dire la force au cœur, et d'une confiance renouvelée en l'Éternel. Il est encouragé à marcher selon la loi de l'Éternel, et l'Éternel lui a promis, « Je serai avec vous, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai point. » La question qui se pose d'emblée, c'est de savoir si Josué et le peuple seront à la hauteur de ce nouveau défi. Eh bien, si ça veut bien avancer, non, je redonne la main, si on est allé un peu trop loin, ce n'est pas grave, c'est bien. Alors, au début de notre chapitre, au verset 1, tous les éléments du récit qui permettront au récit d'avancer sont là. Josué est là, on le connaît déjà, on connaît sa mission, je viens d'en dire quelques mots. Et il y a deux espions, deux hommes anonymes qui sont envoyés par Josué. Et il y a un troisième protagoniste qui s'appelle Rahab la prostituée. Et c'est ça qui est troublant. Parce que si vous lisez le chapitre 1 de Josué, vous vous rendrez compte que juste avant ce chapitre 2, Josué s'est levé, on s'est dit, ah tiens, ça y est, il a la patate. Il a dit, hé, mes lieutenants, allez, repassez en revue les troupes, allez dans le camp et dites au peuple de se préparer, car dans 3 jours, on traverse le Jourdain. Dans 3 jours, on traverse le Jourdain. Alors, tout le monde commence à se préparer. J'imagine les lieutenants en train de préparer les armées et puis les pères de famille en train de se préparer, les mères aussi, les enfants, etc. Dans 3 jours, on traverse. Mais alors, le récit n'est pas celui de la traversée, mais ça commence par le récit d'un espionnage. En fait, on va assister à un faux départ. Un faux départ parce que d'abord, on va se rendre compte que ni Josué, ni les deux espions, ni Rahab ne sont véritablement pas à la hauteur de ce que Dieu est en train de préparer. Josué, faux départ parce que... Oh, je crois que là, on a avancé un peu de trop. Non, encore, pardon. Bien qu'il soit un chef expérimenté, on a vu la semaine dernière qu'il a été un lieutenant très proche de Moïse, un disciple très dévoué. Il doit se souvenir sans doute que Moïse avait envoyé des espions. C'est dans Nombre chapitre 13-14, on en a parlé. Seulement, si vous ouvrez vos Bibles et que vous regardez, l'Éternel dit à Moïse, envoie 12 hommes. Et ici, à aucun moment du récit, Josué n'a consulté le Seigneur. Mais on se dit, ah, il se souvient quand même de quelque chose. C'est qu'une telle opération militaire risquée demande de connaître le pays, de faire une sorte de mise à jour. Et comme il est expérimenté, il se dit, vaut mieux envoyer des espions. Mais vous vous souvenez, lorsque Moïse avait envoyé des espions, c'était donc sur la base d'une parole du Seigneur. Mais vous vous souvenez également que lorsque les espions sont revenus, sur les 12, il y en a 10 qui ont dit, retournons en Égypte. Et il n'y en a que 2, Josué et Caleb, qui ont dit, c'est vrai, ça va être compliqué, mais si le Seigneur est avec nous, nous aurons la victoire. Josué doit se dire, pourquoi reprendre encore 12? 2 valent mieux que 12. Alors, je ne vais pas faire comme Moïse, je vais prendre 2. Et il prend 2 espions. Seulement, Moïse avait rendu publique la mission des espions. Le peuple savait que Moïse avait envoyé 12 personnes. Et ici, là, le texte nous dit que Josué les fit partir secrètement. Il doit aussi avoir un souvenir. Il se dit, ah, la dernière fois que nous étions rentrés, on a fait un compte rendu public et on a failli perdre tout le peuple. On n'a pas seulement failli, d'ailleurs, ça a provoqué un retard de l'entrée. 40 ans, le temps qu'une génération disparaisse. Et en tant que responsable, nous sommes dans le leadership parfois confrontés à ces questions, faut-il leur dire? Qu'est-ce qu'on leur dit? Est-ce que si on leur dit ça, est-ce qu'on ne va pas les démobiliser? Est-ce que s'ils en savent trop, est-ce qu'ils ne seront pas découragés? Oui, ce sont des questions qui traversent les responsables. Vous trouvez ça tout à fait normal, je suppose. Ce n'est pas la volonté de cacher. Josué avait un besoin. C'était le besoin de se rassurer. Alors certains commentateurs disent, mais en fait, Josué est quelqu'un de prudent. Il ne fonce pas la tête baissée. Il ne se repose pas sur ses acquis. On ne sait pas combien de temps est passé entre la dernière expédition des espions et la nouvelle. Peut-être que les données ont changé. Il veut vérifier un bon stratège. Mais on peut également avoir une autre lecture si on n'idéalise pas de trop Josué. En fait, Josué, tu es comme moi. Tu as la trouille. Tu as la trouille. Tu te dis que tu n'as pas droit à l'erreur. Qu'ils ne te louperont pas si tu fais l'erreur. Est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment? Qu'avec une responsabilité qui vous tombe dessus, qu'avec une responsabilité qu'on vous confie malgré vos compétences, vous vous dites, j'ai peur de me planter. Josué avait ce sentiment, je le pense. Et je pense que c'est ce qui nous permet de comprendre pourquoi, au moins à 6 reprises, le Seigneur éprouve le besoin de lui dire « Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. » Et parce qu'il avait peur et parce qu'il avait encore besoin d'être rassuré. Il les a envoyés en secret. Mais alors, quels espions ? Vous avez remarqué ? Alors d'abord, ils ont une certaine expérience. Ils sont anonymes, on ne connaît pas leur nom. Ils doivent rester dans l'ombre d'une certaine façon. Et puis ils avaient pour mission d'aller explorer tout le pays. Les autres l'avaient fait, ils avaient exploré tout le pays. Ils étaient ressortis incognito. Mais eux, à peine, dès la première nuit, ils se font démasquer. Franchement, c'est ballot, non? C'est ballot. Des espions qui se sont fait griller. Le camouflage n'a pas marché. Et pourquoi? Parce qu'au lieu de commencer par aller marcher dans la ville, ils ont commencé par aller où? À la taverne. Au doux plaisir de l'époque. Au doux plaisir de l'époque. Ils sont allés dans cette taverne. Certains pensent que c'est une auberge. Mais visiblement, c'est effectivement un lieu où il y a peut-être une sorte d'auberge, comme une taverne. On peut recevoir du monde et autres. Mais il y a quelque chose, unanimement là, que la tradition biblique a retenu. C'était que c'est un lieu aussi de commerce illicite du sexe. Alors beaucoup de commentateurs se sont demandé s'ils ont pris du bon temps, comme on dit. Le texte ne satisfait pas notre curiosité mal placée ici. Le texte ne répond pas. Alors, quand le texte ne répond pas, ça fait fantasmer. Faux départ. Ils risquent, par leur incompétence, de compromettre la mission. Et si la mission échoue, ben l'étape sera plus difficile. Ils n'ont pas prévu cette éventualité-là, vous rendez compte? Ils se retrouvent grillés et c'est Rahab qui doit leur trouver un plan B. Le B.A.B.A., c'est quand même que quand on fait de l'espionnage, on n'a pas qu'un plan A. Mais moi qui ne suis pas espion, je sais qu'il faut avoir un plan B. Et me connaissant, je vais même avoir un plan C. Et me connaissant très bien, je risque de faire le tour de l'alphabet. Une taupinière, vous voyez un peu. Ils n'ont pas fait ça. Ce qui montre quand même qu'ils ont fait preuve d'amateurisme. Un Josué expérimenté met la trouille dans le ventre. Deux espions relativement incompétents, mais qui ont accepté de se laisser envoyer en mission. Et maintenant, le personnage principal de notre affaire, Rahab, la prostituée. On va s'arrêter plus sur elle ce matin à nouveau. Rahab, la prostituée ou la largesse de Dieu. C'est volontairement que j'ai choisi ce sous-titre, la largesse de Dieu. Pourquoi? Parce que cette femme cananéenne, quand on sait combien les Cananéens ont mauvaise presse du point de vue des Hébreux, puisqu'on ne sait pas grand-chose des Cananéens, si ce n'est ce que les Hébreux ont dit d'eux. Et visiblement, c'est un peuple avec lequel il ne faut pas avoir d'alliance d'une certaine façon pour les Hébreux. C'est un peuple aux mœurs terriblement basses pour les Hébreux. Pas d'alliance possible. C'est un peuple ostracisé. Et Rahab, elle a une femme dans ce monde d'hommes, mais une femme cananéenne, c'est-à-dire le peuple ennemi, le peuple que Israël va devoir conquérir. Une femme dans un monde d'hommes, une femme étrangère à l'alliance de Dieu, et son nom Rahab, d'après un certain nombre de sources rabbiniques, signifierait la spacieuse, la large, la très ouverte. Vous imaginez qu'avec un tel nom, des messieurs ne pouvaient que fantasmer. Alors on trouve dans les sources rabbiniques des commentaires de rabbins qui disent qu'il suffisait de croiser son regard. Je ne sais pas comment dire ça, je suis gêné. Mais vous avez compris, messieurs, c'était mécanique et automatique. La large, la spacieuse, la très ouverte. Une femme a la réputation de générosité au sens de, finalement, femme facile. Une femme de joie, au doux plaisir de Rahab. Alors, ça la met dans une situation de marginalité. Elle relève, et le mot biblique ici qui est utilisé en hébreu, ce n'est pas d'ailleurs le seul pour parler des prostituées, elle est une zona. Elle n'a pas le zona, elle est une zona. C'est-à-dire une femme en situation de prostitution. Or, nous savons très bien que la prostitution est complètement pointée du doigt dans la Bible. Dans Lévitique, chapitre 18, chapitre 21, tous les textes bibliques pointent la prostitution comme quelque chose qui n'a pas lieu d'être en Israël. Et d'ailleurs, la prostitution est comparée à une réalité spirituelle qui est l'idolâtrie. Dans Osée, chapitre 2, Dieu va être confronté à un peuple qu'il qualifie de prostitué. Quand le peuple se détourne de lui en allant vers d'autres sirènes, adorer d'autres faux dieux, Dieu appelle son prophète Osée. Et il dit à Osée, va et cherche une femme, zona, une femme prostituée. Tu vas avoir une relation illicite avec elle parce que tu dois incarner, montrer au peuple comme une parabole. D'ailleurs, les exégètes ne savent pas très bien s'il faut lire ça littéralement ou symboliquement. Je vous laisse faire vos recherches. Mais toujours est-il qu'il se retrouve, lui, l'homme de Dieu, avec une femme prostituée. Vous imaginez votre pasteur arriver dimanche prochain avec une femme qui n'a pas la tête de Nadia, qui n'a pas la douceur de Nadia. Ouais, c'est ça. C'est vrai, ma chère. Et que je fais, c'est ma nouvelle épouse. Vous allez vous dire, non, ça ne marche pas comme ça, frère Paul. On est large de cœur, mais pas à ce point. Et pourtant, j'osais doit mimer cette réalité. Et Dieu dit, tu vas dire à ce peuple, voilà leur prostitution spirituelle. En recourant à d'autres idoles, ils m'ont tourné le dos. Alors tu leur diras, lo ami, plus mon peuple ou pas mon peuple. Tu leur diras, lo ruhama, plus de compassion, plus de miséricorde. Mais à un moment donné, Dieu dit non, je ne peux pas. Ce n'est pas ma nature, ça. Et dans Osée chapitre 2, il y a cette porte d'espérance incroyable. Il dit, je l'amènerai au désert. Je parlerai à son cœur. Je la séduirai à nouveau. Je placerai dans la vallée d'Accor. C'est-à-dire la vallée où il y a eu de la violence. Une porte d'espérance. Dieu place dans ta vie une porte d'espérance. Si peut-être tu es dans une situation de couple, famille désespérée, peut-être Dieu veut t'amener au désert et parler à ton cœur. Cœur du mari au cœur de la femme. Et il dit, là dans la vallée d'Accor, je mets une porte d'espérance. Et puis il dit au prophète, dorénavant dit aux Israélites de dire, ami, tu es mon peuple. Ruhama, compassion. C'était les noms des enfants que le prophète avait donnés au fils de la prostituée, fille de la prostituée. Le nom de Rahab évoque toute cette histoire. Le nom de Rahab évoque aussi l'histoire de Tamar, une autre femme de la Bible, qui avait été lésée dans le système du Lévirat où il fallait que les fils de Judas jusqu'au dernier honorent le mariage et l'apprennent. Et comme cela ne se faisait pas de toute évidence, elle s'est habillée comme une prostituée. Et Judas, son beau-père, qui était malheureux parce qu'il était endeuillé et tout, est monté pour l'adoration dans un lieu de culte. Et sur le chemin, il a croisé Tamar comme une femme prostituée. Il lui a dit, est-ce que tu me permets d'avoir une relation sexuelle avec toi? Elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu me donnes en retour? Il lui a dit, je t'enverrai un chevreau. Elle m'a dit, mais laisse un gage. Il lui a donné son anneau. Et il a eu un rapport sexuel avec elle sans savoir que c'était sa belle-fille qui lui revendiquait la justice. Parce que le dernier fils de Judas avait grandi. Mais Judas avait oublié. Il avait laissé Tamar dans sa maison. Elle était rentrée chez ses parents, mais elle était toujours liée à sa famille. Il n'avait pas honoré sa promesse. Le dernier fils était devenu adulte en âge de se marier. Et elle ne voyait toujours pas la promesse arriver. C'était comme ça à cette époque-là. Oui, parce que les situations de prostitution, j'en sais quelque chose, elles se sont énormément répandues à Grenoble. Au point où c'est l'appart du Nid et les travailleurs sociaux qui sont venus chercher les chrétiens. En disant aux chrétiens, il y a un problème. Dans la ville de Grenoble, nous sommes en train de faire une cartographie de la prostitution. Et le phénomène est juste incroyable. Et notre cartographie nous a amené à identifier dans des églises évangéliques des systèmes de prosélytisme. Et j'étais dans ce collectif avec plusieurs collègues et c'était dur de voir que, en tant que chrétien, on avait repéré dans quelques églises évangéliques des réseaux de mamans qui faisaient venir des jeunes femmes du Nigeria, qui leur retiraient leur passeport et qui les mettaient sur le trottoir. On l'a repéré en Moldavie, en Roumanie. Derrière ces phénomènes prostitutionnels, il y a une grande vulnérabilité que Tamar a connue. Il y a des abus. Il y a de la servitude et de l'esclavage. Quand on y est tenté, pensons à cela. Elle est en marge jusque dans son domicile. Tamar habite un coin du rempart de la ville de Jéricho. C'est là qu'il y a sa taverne. Elle est donc à la marge de son propre peuple. Et pourtant, Tamar n'est pas qu'une femme de joie. Tamar est une femme d'honneur. Rahab, pardon. Rahab, merci, vous me suivez. Moi, j'ai commencé à... est une femme d'honneur. Nous n'aurions pas pensé à elle pour un casting en tant que pasteur ou équipe de direction, n'est-ce pas? Ce n'est pas facile de se dire « cette personne n'est pas parfaite, cette personne a ça comme obstacle encore dans sa vie ». Mais est-ce qu'il nous faut l'encourager? Lui dit « lève-toi », lui dit « entre dans l'histoire avec Dieu ». Ce n'est pas facile à prendre comme décision. Comme pasteur, je le sais. Comme membre d'un collectif, équipe de direction, je sais que nous avons le désir d'encourager chacun à entrer dans sa destinée avec le Seigneur. Mais ce n'est pas facile de dépasser ce premier regard, de se dire, mais dans son passé, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ou dans son présent, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ce n'est pas facile. Et Rahab est le visage de toutes ces personnes qui ont quelque chose qui fait qu'on ne pourrait pas penser à elle a priori pour qu'elle entre dans le plan de Dieu. Or, Rahab, ce n'est pas que la prostituée, c'est aussi une femme d'honneur. Comme dans le cadre du peuple du Proche-Orient ancien, l'hospitalité est un devoir important. Quand tu entres chez quelqu'un, tu es sous sa protection. On a vu avec Lot, à Sodome et à Gomorre, quand les populations de Sodome et Gomorre viennent frapper à la porte, Lot dit non, pas eux, ne touchez pas mes invités, ils sont sous ma protection. Je m'engage pour eux. Leur vie dépend de moi. Mais prenez, hélas, hein, mais prenez mes filles. Prenez mes filles. C'est un peu ce que Rahab fait ici. Elle est une femme d'honneur qui ne cède pas devant un dilemme. D'un côté, il y a la raison d'État qui lui est présentée. Des espions sont venus explorer le pays, dont elle court un crime de lèse-majesté, de haute trahison. La raison d'État doit-elle l'emporter? Et de l'autre côté, il y a un code d'hospitalité. Et puis, plus que le code d'hospitalité, il y a deux vies humaines qui sont en jeu. Et Rahab décide, comme les sages femmes égyptiennes, de dire que dans ce dilemme-là, où il n'y a pas de bonne solution au sens absolu, il y a une moins mauvaise qui était le mensonge de Rahab pour sauver la vie de deux hommes. Elle a considéré que leur vie était au-dessus de la raison d'État. Oui, nous devons penser dans nos pastorales, dans notre accompagnement, la vie de mes frères et sœurs vaut plus que les cadres que nous posons. Les cadres sont bien, mais la vie de chacun vaut plus que les règles que nous posons. Mais nous avons besoin des règles. Et parfois, on a ce dilemme. Rester dans la règle ou être au service de la vie. Rahab s'est positionnée en femme d'honneur, elle a choisi la vie. Elle a le sens et le souci de la famille, mais ça, pour le découvrir, il faut poursuivre notre lecture au moment de la négociation. Je vais y revenir dans quelques instants. Elle pense à son père, elle pense à sa mère, elle pense à ses frères et sœurs, et elle demande aux espions de les épargner au jour du conflit. Elle a des qualités de stratège, de négociatrice, qui témoignent d'une sagesse de la situation, d'une intelligence fine. C'est elle qui les cache. C'est elle qui leur dit comment ils vont faire pour s'en sortir. Ils n'ont pas pensé au plan B. C'est elle qui leur dit ce qu'ils vont dire. Jusqu'au compte rendu final, ils s'inspirent de leur dialogue et de leur rencontre avec Rahab, la femme d'honneur aussi. Et enfin, Rahab est une femme de foi. Et c'est ici que je vous invite à lire les versets 8 et suivants. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs, et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, verset 14, « Nous le jurons sur notre propre vie, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Alors Rahab les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, sinon vos poursuivants risqueraient de vous rencontrer. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient rentrés. Après cela, vous poursuivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous nous acquitterons du serment que tu nous as fait. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. » Et rassemble avec toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux passe la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. La déclaration de Rahab est une confession de foi. Il y a ce qu'elle sait personnellement. Il y a ce qu'ils savent collectivement. Elle dit, je le sais, le Seigneur vous a donné ce pays. Cela est parvenu à leurs oreilles. Elle est bien informée. Elle dit, nous avons appris. Mais à la fin, au verset 11, en effet, le Seigneur, votre Dieu, est Dieu en haut dans les cieux et ici-bas sur la terre. Maintenant, jurez-moi par le Seigneur. Donnez-moi un signe que vous dites vrai. Par le Seigneur. La déclaration de foi de Rahab est ratifiée par le texte biblique. Hébreux chapitre 11, verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne mourut pas avec ceux qui s'étaient opposés à Dieu, parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Rahab est passée dans l'histoire biblique comme une figure de la foi, une foi agissante, une foi cohérente. Elle a choisi le Dieu d'Israël. Et quand elle dit au verset 11 de Josué 2, « En effet, le Seigneur votre Dieu est Dieu en haut, dans les cieux et ici-bas sur la terre. » Elle confesse ce que Moïse a écrit dans ce passage du Deutéronome chapitre 4, verset 39. « Reconnaissez donc aujourd'hui et réfléchissez-y sans cesse que le Seigneur est ce Dieu-là, aussi bien dans les cieux que sur la terre, et qu'il n'y en a point comme lui. La souveraineté de Dieu sur la totalité de l'univers. Quelle confession de foi. Quel grand Dieu. Et en cela, Rahab s'inscrit dans la même lignée qu'un autre nom qui sera évoqué à la suite de Rahab, par exemple dans les généalogies de Matthieu 1. C'est Ruth. Ruth, cette femme moabite, cette femme étrangère aussi, qui a choisi l'alliance avec le peuple de Dieu. Quand Naomi, sa belle-mère, lui dit « Non, va-t'en comme Orpa, quitte-moi, tu as ce droit, tu es délié légalement, juridiquement, tu n'as plus d'obligation. » Elle dit « Non, j'ai vu plus que ça. J'ai découvert plus que ça dans ta famille. N'insiste pas pour que je t'abandonne et que je retourne chez moi. Là où tu iras, j'irai. » Ça s'appelle faire alliance. Là où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Tu peux le faire ce matin. Tu peux faire alliance avec ce grand Dieu de l'univers. Tu peux renouveler même cette alliance. Ruth dit, je le jure, par le nom du Seigneur. Seule la mort me séparera de toi. Rahab, une femme de foi, par la foi, Rahab est entrée dans la grande histoire. Elle est devenue l'aïeule. On a un mot en français pour ça, c'est quand même ça. L'aïeule de notre Seigneur Jésus-Christ. Modèle d'une foi agissante, Jacques nous le dit. Il en fut de même pour Rahab, la prostituée. Elle fut reconnue comme juste à cause de ses actes. Une foi agissante, car elle avait accueilli les messagers israélites et elle les avait fait partir par un autre chemin. En effet, de même que le corps sans le souffle de vie est mort, de même la foi sans les œuvres ou sans les actes est morte. Voilà le témoignage que Rahab nous apporte aussi aujourd'hui. Alors, pour conclure, quelques points. D'abord, trois choses que ce récit vient nous dire dans son contexte. D'abord, ce récit va donner l'impulsion décisive pour lancer la conquête. Josué avait dit, dans 3 jours, nous allons traverser le Jourdain. Si vous avez bien suivi la lecture du texte, ils n'ont pas traversé le Jourdain au bout de 3 jours. Parce qu'après, il a flippé et il a envoyé les espions. D'abord, ils sont partis. On ne sait pas combien de temps a duré le voyage, mais ce qu'on sait, ils ont dormi une nuit chez Rahab. Et Rahab leur a demandé de se planquer pendant 3 jours, ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait. Et ensuite, ils sont rentrés. Donc, ça a pris au moins 5 jours, cette affaire-là, au total. Donc, je ne sais pas ce que Josué a dit aux autres. Hein, pourquoi on ne part pas au bout du 3e jour? La trouille nous fait prendre certaines décisions qui sont encore compliquées à expliquer après. Il a fallu qu'il attende que les espions rentrent pour écouter leur témoignage. Et on découvre que ces 2 espions, maladroits qu'ils étaient, incompétents qu'ils étaient honnêtes, loyaux, parce qu'ils n'ont pas caché à Josué qu'ils étaient à la taverne de Rahab. Ils n'ont pas caché qui ils étaient au fond. Et ils n'ont pas caché l'alliance qu'ils ont faite avec Rahab. C'était risqué puisqu'ils ne devraient pas avoir d'alliance avec les Cananéens. Et pourtant, ils ont dit une chose à Josué, qu'il avait besoin d'entendre. C'est que le Seigneur nous a vraiment donné ce pays. Donc, ils ont joué un rôle capital malgré leur incompétence d'une certaine façon. Et trop de gens s'auto-disqualifient dans la vie, s'auto-sabotent même dans l'église. « Ah, moi, je ne suis pas capable. Ah, mais moi, je n'ai pas fait d'études. Ah, mais moi, je n'ai pas de diplôme. Et moi, je ne sais pas parler comme lui. Et moi, je ne sais pas. » Arrête de te saboter. Arrête de te disqualifier. Dieu te qualifie. Amen. Nos faux pas, nos faux départs, nos erreurs ne peuvent pas empêcher le plan de Dieu d'aller jusqu'à sa réalisation. C'est orgueilleux de se dire, Dieu, tu n'as pas besoin de moi parce que je ne suis pas parfait. Tout au long de ma prédication, je me posais cette question, qu'est-ce qu'un Dieu absolument parfait fait avec des gens absolument imparfaits? Il a dit, regarde, je fais ce que j'ai fait pour Rahab. Je fais ce que je fais pour ces 2 espions. Ils jouent à un moment donné de la partition leurs notes. Et ça change tout. Grâce à leur compte rendu, qui n'était d'ailleurs pas un compte rendu, peu de mots par rapport aux 10 autres. Et Josué dit, sur cette base-là, Josué a repris confiance. Est-ce que tu connais autour de toi quelqu'un qui a besoin d'être encouragé? Parfois, ce n'est pas un long discours, pas une diatribe non plus. Ta présence, ta confiance, ton amitié et peu de mots peuvent redonner confiance et changer une vie. Josué, ça a changé sa confiance. Il est reparti, requinqué, revigoré. Rahab nous parle aussi de la largesse de l'amour de Dieu. Dieu ne fait point acception de personne, c'est une affirmation biblique. Dieu ne regarde pas mes origines. Il n'est pas indifférent. Il sait que je viens du Cameroun, etc., et que tu viens de quelque part. Et si tu veux faire courir, c'est qu'on vient d'Adam et Ève. Il ne regarde pas ça. Il ne regarde pas mon statut social. Il ne regarde pas ce que j'ai fait dans la société. Il ne regarde pas si... Il ne regarde pas mes chemins de traverse. Il ne m'enferme pas. Il sait tout ça. Et il dit, son amour est large. Il te dit, toi ce matin, tu peux. Tu peux entrer dans mon projet. Tu peux entrer dans mon plan. Dieu est large. Ce n'est pas Rahab la large, la spacieuse. En tout cas, elle n'est pas plus large, plus spacieuse, plus ouverte que Dieu. Elle a trouvé refuge en lui. Et tu peux le faire ce matin. Je suis sur deux fronts en même temps et je constate que ce que je vois ici, ce n'est pas forcément ce que vous voyez derrière. L'histoire de Rahab, deuxième enseignement, nous rappelle que le Dieu bon et souverain est celui qui réalise son projet en dépit de nos faux pas, de nos erreurs, de notre imperfection. Et enfin, mais vraiment enfin, l'histoire de Rahab nous montre que la peur a changé de camp. C'est dans le témoignage de Rahab. Vous savez, les 10 espions dans Nombre 13-14 avaient peur. Et ils ont dit, retournons en Égypte. C'est mieux. Et là, Rahab dit, nous avons vu ce que Dieu a fait pour vous. Comment il a ouvert la mer en deux. Nous avons entendu comment ceux qui vous ont résisté à Og et à Sion ont été traités. Nous avons peur. Notre cœur est en dislocation. Et là, ils comprennent que la peur a changé de camp. Mon ami, mon frère, ma sœur, on a parlé de peur ce matin ou pas? Vous voyez, Nelson Mandela, ce qu'il a dit, je l'ai dit la semaine dernière. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la force d'avancer malgré la peur. Et j'aimerais ajouter ce matin que la peur doit changer de camp. Si tu es victime d'une injustice, si tu es victime d'un abus, si tu es victime d'être marginalisé, ne reste pas dans cette posture de victime. La peur, la honte doivent changer de camp. Amen. C'est très important ça. La peur a changé de camp. Elle est passée du camp des espions au camp des Cananéens. Notre Dieu n'est pas un Dieu de peur. Alors maintenant, je vais appeler les musiciens venir me rejoindre parce que j'avais tellement envie de finir avec ce chant. Je leur ai demandé s'ils pouvaient chanter ce chant qui nous parle de ce Dieu qui relève le pauvre, qui nous manifeste son amour. Et pendant ce chant, je voudrais te demander, mon frère, ma sœur, si tu te sens interpellé, j'aimerais vraiment faire un appel ce matin. Tu es là, et je pensais tout au long de cette prédication, en particulier aux gens qui disent, moi je suis imparfait, moi j'arrive même pas à me pardonner moi-même, et qui traînent un poids et un monde de culpabilité. Ce matin, Dieu te dit, Rahab n'était pas parfaite, mais je l'ai utilisée. Elle est même devenue l'une des 5 femmes que le Nouveau Testament cite dans la généalogie de Jésus. Elle est devenue la sœur de Tamar, une autre étrangère. Elle est devenue l'ancêtre même de Ruth, puisque Rahab a donné comme fils Boaz a épousé Ruth. Il a racheté Ruth. Et peut-être que tu demandes un signe. Rahab avait besoin d'un signe. Elle a demandé un signe. Je n'oublie pas ce petit détail. Et le signe, c'était quoi? Petit cordon, une petite bandelette. De quelle couleur? Rouge. À attacher juste sur la fenêtre de sa maison qui donnait de l'autre côté du rempart. Et mes amis, ça doit nous parler. Jusqu'ici, je n'ai pas prononcé beaucoup le beau nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'un tissu? Qu'est-ce qu'un bout de tissu pouvait donner confiance à Rahab? Et si un bout de tissu, si elle a pu s'accrocher à ce bout de tissu comme seul signe qui lui avait été donné, à plus forte raison, plus de 2000 ans après, nous, on n'a pas un bout de tissu. On a le Fils de Dieu. On a le Seigneur Jésus qui s'est donné à la croix. Ce n'était pas un bout de tissu. Il a donné sa personne. La couleur rouge de ce cordon, c'était son sang. Une préfiguration du salut. Dans ta misère, Dieu te tend la corde ce matin. Ça s'appelle la miséricorde. C'est ça qui nous fait monter de la misère par la corde. Tu prends la corde, c'est la miséricorde. Dans ta misère,
Dieu te tend la corde ce matin. Et cette corde, elle a un nom. C'est Jésus. Alors on va se lever parce que je vous ai fatigué. Et on va chanter ce chant avec foi. Et je vais te demander si tu te sens appelé à arrêter de t'auto-saboter. Et arrêter de dire je suis imparfait. Je vais te demander de t'avancer pour que tu reçoives une parole de grâce et de confiance. Et pour repartir en disant aujourd'hui Seigneur, je choisis que la honte, que la peur change de camp. Si pendant, à tout moment, pendant le chant, tu veux faire cette démarche, n'aie pas honte. Fais ce pas, mon ami, mon frère, ma sœur. Et ensuite, j'appellerai quelques membres de l'équipe de direction, quelques personnes à venir peut-être prier pour celles et ceux qui feront ce pas de foi ce matin, de venir, de dire, Seigneur, je m'avance. Et si ce n'est pas possible, parce que tu restes dans ton rang, alors je t'invite à lever la main et à faire signe pour que quelqu'un vienne à côté. Et la personne va prononcer pour toi une parole d'encouragement et prier avec toi pour que la peur change de camp. Amen. Merci.
J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras.
Oui, le Seigneur guérit, restaure. N'hésitez pas à vous avancer. Nous sommes des frères, des sœurs. On veut prier pour vous ce matin. Pour que la peur change de camp. Pour que la honte change de camp. Pour que la confiance soit donnée. Pour que la guérison intérieure vienne. Sois béni, mon frère.
Esprit avec corps dans l'amour de notre Père.